L'affaire Roussel. Emmanuel VI. Chapitre 1. Et pour terminer, je vous invite à porter un toast avec moi à la santé de l'imprimerie Tillier. Une femme à côté de l'orateur lui passa précipitamment une coupe de champagne qu'il leva. Tous les invités, regroupés en un demi-cercle approximatif, firent de même avec la leur. Qu'elle continue de prospérer en ce 21e siècle comme elle l'a fait sous l'égide de mon père, Gaston Tillier. La voix trembla un peu en prononçant ces derniers mots, mais Jean Tillier se ressaisit et c'est d'une voix ferme qu'il conclut: Je vous remercie d'être venu. Bonne journée à tous. Les applaudissements crépitèrent. Claire prit une dernière photo et, tandis que la foule s'égayait dans le grand jardin vers les deux buffets disposés symétriquement, elle rangea son appareil soulagé. Ouf! Le travail était à peu près terminé. Elle allait pouvoir profiter de la fête. Elle avait assuré le coup en prenant quatre photos de Jean Tillier pendant son discours. Jointes à celles qu'elle avait faites des différentes personnalités au début de la réception et à celles qu'elle se réservait encore de prendre si une scène pittoresque se présentait, elle lui permettrait un choix plus que suffisant pour illustrer l'article qui paraîtrait le lendemain dans la Voix du Nord, à la page Lambersart. Décidée à profiter des appétissants petits pains au jambon qu'elle avait repérés au premier buffet, dans le jardin de devant, elle choisit de contourner la maison plutôt que de la traverser. Mal lui en prit car beaucoup de convives stationnaient dans les allées latérales, plus ombragées, et elle dut louvoyer entre les groupes, marmonnant de vagues excuses. Elle avait l'impression que les gens la regardaient curieusement, comme si, l'ayant reconnue comme la journaliste qui s'était avancée tout près de Jean Tillier lors de son discours pour prendre des photos, il lui déniait la qualité de véritable invitée. Elle parvint sur le devant de la maison près du perron monumental et s'aperçut que la table près de la grille d'entrée était vide. Au début de la garden party, les employés de l'imprimerie y accueillaient les invités en calligraphiant leur nom sur un badge où figurait déjà, dans une police élégante et compliquée, l'inscription « Imprimerie Tillier, 70 ans ». Claire en conclut que tout le monde était à peu près arrivé. Du reste, on avait fermé la grande grille. Seule restait ouverte une petite porte à droite pour ceux qui désiraient partir. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il était près de 15 heures. Elle s'avança vers le buffet derrière lequel deux serveurs en veste blanche et nœud papillon, stoïques sous le soleil de plomb, semblaient guetter les convives. Dès qu'elle fit mine d'approcher, l'un d'eux lui tendit une coupe avec un sourire mielleux. « Un peu de champagne, madame ?» Elle prit le verre, constata qu'il n'y avait plus de petit pain au jambon et, après un moment d'hésitation, choisit un sandwich au saumon dans un pain surprise presque vide. À l'évidence, les invités, à leur arrivée, s'étaient rués sur ce buffet avant de se répandre sur les côtés et l'arrière de la maison. Elle but une gorgée de champagne et ne put réprimer une grimace. Il était tiède. Il faut dire que le buffet placé à l'entrée était en plein soleil, à la différence des deux autres situés dans le jardin derrière, que Madame Tillier avait eu la bonne idée d'installer sous des arbres. C'était sans doute pour cette raison que les gens s'y agglutinaient dorénavant. Sa coupe dans une main et son sandwich dans l'autre, son appareil photo en bandoulière, elle repassa sur l'arrière de la maison en traversant le grand hall, dont la fraîcheur lui fit du bien. Sur sa gauche, il y avait plusieurs portes, toutes fermées. Sur sa droite, elle longea successivement une grande salle qui servait de vestiaire, les toilettes puis un large escalier en marbre, avant de ressortir en pleine lumière. On en était désormais au dessert, macarons et mignardises. Certains convives s'en donnaient à cœur joie. Ainsi, Claire vit un homme âgé au visage distingué engloutir d'un seul coup quatre mini-babas au rhum avec des regards furtifs des colliers en faute. Tournant légèrement la tête, elle distingua, au centre de la pelouse, Jean Tillier qui discutait avec le maire de Lambersart et des édiles lillois. Il avait gardé son éternel costume noir et sa cravate, malgré la chaleur, alors que ses interlocuteurs avaient tombé la veste et s'étaient mis à l'aise. Claire nota que c'étaient les invités huppés, hommes politiques et industriels qui, sous le soleil de plomb, avaient tendance à se débrailler, col de chemise grand ouvert et manches relevées, tandis que les quelques ouvriers de l'imprimerie qui avaient été conviés restaient engoncés dans leurs costumes et étranglés par leurs cravates. Sans doute étaient-ce ceux qui, quelques jours avant, avaient reçu la médaille du travail. Intimidés par cet étalage de richesses, ils rôdaient autour de Gentilier, guettant un moment favorable pour aller le saluer. Il y avait vraiment beaucoup de monde à l'arrière de la maison, tant sur la pelouse centrale que sur les pelouses latérales, qui en étaient séparées par deux allées remontant en convergeant vers la villa. Pendant un moment, Claire s'essaya à compter les invités, mais des gens bougeaient et elle s'embrouilla dans ses calculs. Finalement, elle renonça et s'en tint à une estimation globale de 70 personnes. Elle parcourut des yeux les différents groupes à la recherche de connaissances. La concentration humaine la plus importante se tenait sur la pelouse de gauche. Madame Tillier y conversait avec une dizaine de capitaines d'industrie lillois. Tout en parlant, elle caressait machinalement la tête d'un garçonnet accroché à sa jupe. Claire contemplait ce tableau, un sourire attendri aux lèvres, quand son attention fut attirée par des éclats de voix provenant de la pelouse de droite. Une jeune femme, qu'elle identifia immédiatement comme Barbara Roussel, la sœur de Madame Tillier, se détournait, visiblement en colère, d'un homme au teint hâlé, inconnu de Claire. Cette dernière, malgré la distance qui les séparait d'eux, saisit ces paroles de Barbara. N'insiste pas, c'est non, je ne le ferai pas. Sur ce, celle-ci se dirigea vers un petit groupe de jeunes et, comme si de rien n'était, se mit à bavarder avec eux. Comme elle avait crié ces mots, beaucoup d'invités avaient tourné la tête vers le couple. Mais bonne éducation oblige, ils reprenaient leur conversation ou faisaient mine de le faire, n'adressant plus que des regards subreptices aux deux protagonistes de l'altercation. Quant à l'homme, il semblait plus contrarié de l'attitude de Barbara que gêné d'avoir attiré l'attention sur lui. Finalement, après avoir hésité, il se dirigea d'un air dégagé qui parut à Claire affecté vers un des buffets du fond du jardin. Celle-ci reporta son regard vers Barbara qu'elle voyait de face. Elle l'avait déjà rencontrée une fois dans une boîte de nuit en Belgique, il y avait environ 6 mois, à une époque où elle-même, au creux de la vague après sa rupture avec Marc, s'était laissée entraîner par des copains journalistes dans les dancings. Certains membres de son groupe, véritables oiseaux de nuit, avaient reconnu des gens de l'entourage de Barbara. Les deux troupes avaient fusionné le temps d'une soirée, et c'est ainsi qu'elles avaient fait connaissance. Déjà à l'époque, sous les lumières tamisées, la beauté de Barbara lui avait sauté au visage. Pourtant, comme aujourd'hui, elle l'avait observée avec ce regard aigu et sans concession qu'ont les femmes quand elles s'examinent entre elles. Mais elle avait été frappée par la régularité des traits, le profil délicat du nez, la bouche petite et sensuelle, et surtout les grands yeux d'un bleu très clair, presque délavé. Et ici, sous le soleil, elle admirait à nouveau ce visage parfait, mis en valeur par les longs cheveux blonds. Elle aurait eu tout d'une nordique telle que les imaginent les hommes dans leurs fantasmes si elle avait été plus grande, se dit Claire qui lui cherchait obstinément un défaut. Elle estimait la taille de Barbara à 1,65 m, alors qu'elle-même dépassait 1,70 m. C'était bien le seul point à son avantage dans la comparaison implicite qu'elle établissait entre elle et la jeune femme. Elle aurait cependant eu tort de se faire des complexes. Certes, elle n'avait pas le type de la sirène scandinave. Brune, les cheveux coupés courts, les yeux verts, elle possédait un physique fort différent de celui de Barbara. Néanmoins, si elle avait fait plus attention au regard concupiscent et à l'agitation fébrile qui s'emparait de ses collègues de la Voix du Nord quand elle entrait dans l'agence de Lambert Sarr ou dans les bureaux du siège lillois, elle aurait été rassurée sur son pouvoir de séduction. Avec un soupir de dépit, elle abandonna son examen de Barbara et se dirigea vers son collègue d'honneur éclair, Roger Debout. Celui-ci était un journaliste chevronné, proche de la retraite, qu'elle rencontrait souvent dans les manifestations locales. Malgré la rivalité entre leurs deux journaux, il s'était montré à plusieurs occasions serviable avec elle. Dès qu'il la vit, il abandonna sans plus de façon une dame patronesse avec qui il s'entretenait et se précipita vers elle. Il la prit par les épaules et lui claqua deux gros baisers sur les joues. « Alors, la petite, que penses-tu du rout du père Tillier ?» Claire sourit. Roger l'appelait toujours la petite, bien qu'elle fût plus grande que lui. Elle sentait bien l'intonation affectueuse qu'il mettait et ne s'en offusquait pas. Nanti d'une barbe druidique dont la longueur faisait sa fierté, il avait toujours eu un côté anarchiste qui, dans sa carrière, lui avait parfois nui, mais qui ravissait Claire plus conformiste. Sans attendre de réponse, ce qui était une autre de ses caractéristiques, il reprit en montrant la coupe de champagne de la jeune femme. Toutes ces boissons de bourgeois, ça en jette, mais ça ne vaut rien par cette chaleur. Et évidemment, pas de bière ici. Bon Dieu, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une Jeanlin! Tout en disant ces mots, il lissait sa barbe comme s'il caressait une chope de bière glacée. Son visage était écarlate, près d'exploser. Claire se mit à rêver, elle aussi, un demi bien frais. C'était presque un record pour un 29 septembre. Depuis une semaine, la température avait augmenté régulièrement, jusqu'à dépasser les 30 degrés ce dimanche. On aurait dit que la météo, après un été maussade et alors que l'on était entré officiellement en automne, se montrait capricieuse comme par plaisir, pour être au centre des conversations. Note bien, continua Roger qui suivait son idée, que je ne jette pas la pierre à ce pauvre gentilier. Il n'est pas responsable du temps et il fait de son mieux pour que la fête soit réussie. Mais il n'a pas le charisme de Gaston, son père. Comme il avait accompagné ces mots d'un geste du menton, Claire se tourna dans la direction indiquée. Gentilier était toujours debout sur la pelouse centrale. Deux édiles influents de la communauté urbaine de Lille semblaient lui expliquer quelque chose avec force geste à l'appui, tandis qu'il hochait la tête avec un sourire poli. Sans ses lunettes à grosse monture d'écaille et sa tenue d'employé des pompes funèbres, il ne serait pas si mal, pensa-t-elle. Elle était trop jeune pour avoir connu Gaston, décédé depuis 10 ans, 6 mois après avoir transmis l'imprimerie à son fils. Mais elle en avait vu des photos et lu des déclarations tout récemment, à l'occasion des cérémonies marquant les 70 ans de la vénérable entreprise lilloise. Celui qui avait dirigé cette dernière d'une main de fer pendant presque 40 ans en imposait, tant par son physique que par sa faconde. Incontestablement, son fils, qu'on disait timide de surcroît, paraissait plus terne et souffrait de la comparaison. Et à la Voix du Nord, ça marche toujours pour toi? En route pour la gloire? La question de Roger interrompit les réflexions de Claire sur la famille Tillier et lui remit en tête son propre parcours professionnel. Sa vocation précoce pour le métier de journaliste, encouragée par ses parents instituteurs, avait été confortée quand sa classe de terminale à Douai avait été sélectionnée pour l'opération journaliste d'un jour menée par la Voix du Nord. Après un doc d'histoire, elle avait réussi le concours d'entrée à l'école de journalisme de Lille, dont elle était sortie bien classée. Embauchée peu après par le quotidien régional, elle avait débuté à Dunkerque et depuis 2 ans avait rejoint l'agence de Lambersart aux portes de Lille. Pendant un bon moment, elle confia à Roger ses espoirs. Dans un premier temps, elle comptait continuer à apprendre correctement le métier. Après tout, elle n'avait encore que 29 ans. À terme, elle visait un poste de grand reporter. Roger, mi-attendri, mi-amusé, la titilla. Basculerait-elle vers la télé? Ça et Internet, voilà l'avenir pour une journaliste ambitieuse. Elle avait tout pour finir présentatrice de 20 h à TF1. Mais Claire, qui, dès que l'on parlait métier, restait très sérieuse, n'en démordait pas. Elle voulait rester dans la presse écrite et, comme elle était attachée à sa région, elle entendait demeurer à la Voix du Nord, où elle se sentait bien intégrée. Elle ne lui avoua pas que son aversion pour l'audiovisuel et Paris provenait en partie d'une longue liaison qu'elle avait eue quand elle était en poste sur la côte, avec un journaliste de FR3 qui l'avait plaqué quand il avait été nommé dans la capitale. Comme il la charriait à nouveau sur son provincialisme, elle lui dit en riant: Inutile d'user ta salive, tu ne me feras pas changer d'avis. D'ailleurs, je m'en vais et je te conseille d'en faire autant. On est en plein soleil ici. Regarde-toi, Roger, tu es tout rouge et si tu ne fais pas attention, il va t'arriver la même chose qu'à Madame Tillier. Effectivement, celle-ci était victime d'un malaise, manifestement dû à la chaleur. Très pâle, soutenue d'un côté par une parente, de l'autre par un serveur, elle remontait la pelouse vers la maison. Elle avait tenu à s'éclipser discrètement, et quand Gentilier, alerté par quelqu'un, s'était approché d'elle, elle l'avait rassurée et renvoyée à ses invités. Elle-même reviendrait dès qu'elle se sentirait mieux. Lorsqu'elle passa près d'eux, Roger, à qui une certaine vulgarité ne faisait pas peur, dit à mi-voix à Claire: Il en a de la chance, le père Tillier. Quel beau morceau! Claire jeta un coup d'œil discret vers Madame Tillier. Certes, celle-ci était belle, mais ce qui frappait avant tout la journaliste, c'était la ressemblance avec sa sœur Barbara. Elle était coiffée différemment, mais c'était la même blondeur. Et si de près le visage présentait quelques fines rides absentes chez Barbara, c'étaient les mêmes yeux bleus délavés, le même ovale parfait. Quel âge a-t-elle? Demanda Claire à Roger quand Rebecca Tillier les eut dépassés. 36 ans. Et comme s'il lisait dans ses pensées, il ajouta. Barbara en a 30. On ne dirait pas qu'il y a 6 ans entre elles, n'est-ce pas? Il laissa passer quelques secondes, puis, avec un regard en coin vers Claire, poursuivit. Comme elle est mariée et honorable mère de famille, je me rabattrai sur la sœur. N'importe comment, il me faut une jeunesse pour réchauffer ma vieille couenne. Et, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, comme tu te refuses obstinément à moi. Arrière, vieux satyre, dit-elle en riant, je te laisse à tes pensées lubriques. Elle alla sur le côté de la maison où, grâce à l'exiguïté de l'espace entre l'habitation et le mur d'enceinte, il y avait de l'ombre. Là, elle fut interpellée par une plantureuse conseillère municipale qui avait été condisciple de sa mère au lycée Saint-Odile et tenait manifestement à lui faire l'éloge de cette période bénie. Claire lui joua son numéro de fille vertueuse et bien élevée en l'écoutant avec l'air recueilli et intéressé qui convenait. Au bout de 20 minutes, elle en était encore à se demander comment elle allait pouvoir échapper au verbiage de son interlocutrice quand un élément extérieur vint à son secours. Un cri strident se fit entendre en provenance de la villa, ce qui arrêta net la conseillère. Puis, après un silence de quelques secondes, des hurlements de terreur retentirent.